Vous écoutez France Culture.
Doucement là parce que je suis à la maternité, celle qui est en face à la maison. Parce que tu sais, j'ai décidé de jouer mes Felicity maintenant. Je t'enverrai désormais de mes nouvelles, non plus par mail, mais par fichier sonore. Là, je suis donc à l'hôpital parce que mon petit bébé, ma petite fille adorée, elle vient de naître. Les médecins nous laissent un petit peu tranquille ce matin, donc j'ai le temps de te dire deux, trois mots. Je sais pas si t'entends la petite, mais elle dort juste sur moi. Elle est trop jolie. Tout s'est bien passé. Notre nuit aux urgences, les médecins ont été vraiment bien. Et puis, la petite est née. Super jolie. Enfin, tu sais ce que c'est, toi, t'en as trois. Tu l'entends? Elle dort. Écoute, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très très bientôt. J'espère que tu pourras venir voir la petite. On sort de l'hôpital dans quelques jours. Donc, tu pourras venir à la maison. Salut, embrasse ta petite famille pour moi. Et puis, à bientôt. Ciao. Benoît Lagame,
Éric Vera,
série télé,
l'Amérique en 24 épisodes.
Ce soir, épisode 17.
Bonjour docteur. Salut Jerry.
L'Amérique sous perfusion.
Bonjour docteur.
Les séries médicales.
Voilà où en était la situation ce matin à 6h15 dans le quartier du Loup, où un immeuble en construction s'est effondré.
Pour Madame Williston, salle 4, un NFS. Le malade de la 5 fait un infarct en attente de ses enzymes cardiaques, encore 12 unités. Le docteur Ross est dans la 3, il fait son 20. Il faudrait le réveiller et le sortir de là. J'attends l'acide urique pour la 9. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Un building s'est effondré dans le Loop. Il nous envoie 12 blessés.
Qui d'autre est sur le coup?
Rien que nous.
D'accord, on va laisser ça de côté. Appelez Suzanne Lewis et les 7e et 8e étages. Il nous faut tout le personnel disponible. Faites ça tout de suite.
Dans les épisodes précédents, nous nous sommes arrêtés sur les nombreux auteurs qui ont marqué les années 90. Il y a eu en particulier David E. Kelley, créateur de Chicago, grande série médicale des années 90. On y reviendra dans cet épisode. Une autre série née le même soir, une série médicale diffusée en France depuis plus de 12 ans, Urgence. La série médicale, c'est bien le sujet de l'épisode de ce soir, qui est un genre à part entière aux États-Unis depuis les années 60. Alors pourquoi il faut attendre Urgence dans les années 90 pour que la série médicale devienne si populaire en France?
Alors on a bien quelques éléments de réponse hein, sur cette question médicale, mais on a préféré aller voir quelqu'un qui connaît parfaitement le sujet. Martin Vinclair, il est médecin, romancier, il est très bon connaisseur de la fiction télé américaine, puis alors quand celle-ci traite d'aspects médicaux, là, on ne l'arrête plus.
C'est votre main droite. On va jeter un œil. Lumière, on y va. Laissez-vous aller. Pensez à des choses agréables. Tout se passera bien, monsieur. Vous me faites NSF, groupe RH, tout le bilan pré-op.
Bien, docteur.
On a beaucoup souffert en France de la censure gaullienne de la télévision. Puisque la télévision était une télévision d'État. Et ben, par exemple, jusqu'à l'éclatement du PAF au milieu des années 80 et à l'apparition des chaînes privées, je n'ai pas vu de séries médicales et de séries d'avocats américaines ou anglaises à la télévision française. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas. Et pourquoi il n'y en avait pas? Parce que les Français ne les achetaient pas. Et pourquoi ils achetaient pas? Ils achetaient plein de séries policières, ils achetaient quelques séries de science-fiction, pas toutes, mais ils n'ont pas acheté Star Trek, mais ils achetaient ni séries médicales, ni séries judiciaires. Pourquoi? Parce que les séries médicales et les séries judiciaires montraient un mode de relation entre les médecins qui étaient toujours du côté du patient et les avocats qui étaient toujours du côté des clients contre la justice, contre l'État, contre ceci, qui étaient complètement incompatibles avec la vision qu'avaient d'eux-mêmes les avocats et les médecins français qui se voyaient avant tout, qui se voient toujours avant tout comme une caste. Une série comme Urgence, pour moi c'est une série extraordinaire parce que d'emblée elle donne la parole aux gens. Il y en avait d'autres, hein, des séries médicales comme ça aux États-Unis avant, mais c'est la première qui donne à égalité la parole aux gens qui sont soignés autant qu'aux gens qui soignent. Bon. Et que ça ait pris comme ça, une telle, que ça a eu un tel succès, au moins les 5 ou 10 premières années en France, que ça a eu un tel succès, ça ne m'étonne pas du tout. C'était la première fois que les spectateurs français voyaient des médecins comme ils avaient envie d'en voir.
Oh non, visez ce qui arrive.
C'est la première fois de ma vie que je vois une blouse blanche sur mesure.
Il est pas mignon celui-là?
Très mignon.
Tu crois qu'il sait quelque chose?
Il sait s'habiller déjà.
Bon, c'est mon étudiant. Je vais voir ça. John Carter?
Oui, monsieur.
Peter Benton. T'es externe en chirurgie?
Oui, troisième année.
Bon, on va passer beaucoup de temps ensemble, alors commençons par faire le tour du service. Voici les admissions ou l'accueil. Si tu dois biper quelqu'un ou demander un dossier, ça se passe ici. Voici Timmy. Lui, serre pas la main, il a peur des maladies. C'est le couloir qui mène au labo. On fait hématocrite, numération et chimie. Les examens sont marqués sur des fiches que tu laisses à l'accueil et demande-les d'urgence, que ce soit urgent ou non. La chimie, c'est le 70-2-2. L'hémato, le 6-9-4-4. Apprends ces numéros par cœur. Mm-hmm. Chaque patient a une perf dans la minute où il passe la porte. Utilise un ange de 4-2-16. Tu as besoin d'un gros calibre au cas où il saigne et nécessite une transfusion. Tu sais passer une perf?
En fait, non.
T'es bien en troisième année?
Oui, mais tout ce que j'ai fait, c'est dermatologie et psychiatrie.
Les spécialités proprettes. Hein.
Alors Eric, on peut beaucoup dire sur la série Urgence et il faudrait énormément de temps pour évoquer en détail tout ce qui fait de cette série une œuvre majeure de l'histoire de la télé. Au-delà de ses qualités scénaristiques, on y reviendra, Urgence est avant tout une série qui a touché, qui continue encore à toucher de nombreux téléspectateurs depuis 14 saisons. Alors là, moi, j'aimerais parler un petit peu à la première personne, parce que cette série que j'ai découvert pour la première fois en 1996, c'était le 27 juin 96 précisément. Prenez vos calculettes, Eric, c'était il y a 12 ans, donc j'avais 21 ans et quelques semaines. Je découvre cette série un été sur France 2, et à partir de là, je ne lâcherai plus du tout cette série et donc je suis aujourd'hui à plus de 300 épisodes. Si cette série a été importante pour moi, c'est qu'elle a changé vraiment à tout jamais ma perception de la série. J'aimais ça, mais je n'arrivais pas à l'expliquer et tout d'un coup, grâce à cette série, je vais comprendre pourquoi j'aime vraiment la série télé. On aime souvent rappeler la petite réflexion d'un cinéaste, la télévision crée de l'oubli. Ce jour-là, Godard a perdu l'occasion de se taire car... Si on prend l'exemple d'Urgence, non seulement elle ne crée pas du tout l'oubli, mais elle soutient et accompagne de nombreux moments de vie. Au-delà des rebondissements imaginés par les scénaristes ou l'évolution de tel ou tel personnage, quand la série va s'arrêter à la fin de la saison prochaine, c'est ce que l'on dit aux États-Unis, pour moi ça va être 15 ans de vie qui vont s'arrêter. Quand j'ai découvert Eric Urgence, je suis entré au Cook County Hospital à l'aide de deux personnages importants, et ces deux personnages vont m'accompagner pendant plusieurs années. Le docteur Mark Green, d'abord, que l'on suit dès le pilote de la série lors d'une de ses fameuses gardes de nuit, et plus encore le jeune interne John Carter. L'identification avec Carter a été pour moi immédiate, il est étudiant à l'époque, moi aussi, l'effet miroir va jouer à fond. Et quand Mark Green, l'un des mentors de Carter, va mourir à la suite d'une maladie cérébrale, avec ce rebondissement scénaristique qui en fait va permettre simplement au comédien Anthony Edwards de quitter son personnage... Pour moi, je le vis comme une réelle disparition. Ce personnage va vraiment disparaître dans ma vie et je me suis surpris à être touché comme si je venais de perdre un être proche. J'ai découvert et appris les mécanismes de ma propre profession comme John Carter. Je me suis marié quand Carol Hathaway a quitté Chicago pour retrouver l'amour de sa vie, Doug Ross. Mon premier enfant Yanis est né quand celui de Mark Green a dû apprendre qu'il devait vivre sans son père. Et cet été, je vais voir de nouveaux épisodes d'Urgence avec dans les bras ma petite Rose qui vient de naître. Et je suis sûr que ma vie et cette série vont encore s'imbriquer.
Tout ce que vous dites, en fait, je pense que la plus grande partie des téléspectateurs et américains et dans le monde entier, parce que la série est un carton mondial, ont eu certainement ce type de réflexe. Ouais, bon, si on est au rayon des anecdotes, moi je pense que Urgence, pour moi c'est saison 1, c'est un épisode qui s'appelle Love, Labor, Lost, travail perdu, dans lequel Mark Green, en fait, alors qu'il a plus rien à faire dans cet hôpital, reste pour accompagner une maman qui doit accoucher. Et bien sûr, l'accouchement se passe très mal, il perd la maman, il garde l'enfant. Et c'est quelque chose qui va accompagné la série pendant de longues années. Et là, on voit bien, effectivement, l'épaisseur des personnages et tout ça fait sens. Alors, au-delà donc de tout ce que vous venez de dire, Urgence, c'est aussi un casting choral, donc une quinzaine de personnages totalement crédibles. C'est l'emploi de la véritable terminologie médicale, les fameux iono, chimie, gaz du sang, criés un peu partout. Le steadicam qui virevolte, donc beaucoup de rythme, on n'avait pas l'habitude de ça à l'époque. Et puis, comme toutes les grandes séries, c'est quelque chose qui parle de son époque. Et là, en l'occurrence, ça parle du système de santé américain, ça parle des grandes questions de société, la drogue, l'éducation. Et donc, c'est aussi pour ça que Urgence est un document incontournable des années 90.
Tu vas apprendre que les chirurgiens essaient d'aider les gens et pas de leur soutirer du fric. La meilleure façon de pratiquer, c'est de tirer la peau pour que la veine ne roule pas. Et vas-y doucement. Quand t'es dedans, retire le truc et branche la tubulure. Voici Carol Attaway, notre surveillante. John Carter.
Enchanté.
Salut.
Elle est superbe, non? Elle sort avec un orthopédiste, un ex-champion de foot qui a tout de King Kong. Ensuite, tout ce qui te reste à faire, c'est de poser un sparadrap. Flux modéré, 2 ou 3 gouttes par seconde, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ok?
Ok.
Je vous raconte une anecdote. Deux anecdotes. La première, c'est à propos d'Urgence. Urgence, c'est un peu comme Les Experts. Personne ne croyait que ça marcherait. Et puis, au bout de 3 épisodes, ça cassait la baraque. Donc, d'un seul coup, ils se retrouvent avec un succès qu'ils n'avaient pas prévu. Et au bout d'un an, l'un des co-scénaristes d'Urgence, Lance Angel, qui est urgentiste lui aussi, est invité à un congrès d'urgentistes où il a une ovation. On le fait docteur honoris causa. Enfin, lui, on l'embrasse et on lui dit la médecine d'urgence était méprisée jusqu'à présent. Grâce à vous, tout le monde nous dit bonjour dans la rue. Enfin, tout le monde est reconnaissant. Les gens sont gentils avec nous maintenant parce qu'ils savent que notre boulot est difficile. Et les inscriptions en médecine d'urgence, qui n'était pas une spécialité mais qui est en train de le devenir, ont été multipliées par 5. Bon. Et un type lui dit, moi ça fait 20 ans que je fais de la médecine d'urgence, tous les soirs ma femme et mes enfants me demandaient ce que je faisais, maintenant ils savent. Ça c'est l'anecdote, c'est une anecdote des années 90. 20 ans plus tôt, il y a une série très très populaire aussi qui s'appelle Marcus Welby, aux États-Unis, qui a été la première série la plus regardée pendant 2 ou 3 ans d'affilée quand même, qui présente 2 médecins, un médecin plutôt vieillissant, qui a 60 ans, une soixantaine d'années, qui est le bon vieux médecin, qui vous tient la main, qui vous dit la vérité, qui vous accompagne et qui demande à l'hôpital de ne pas vous emmerder si vous avez envie de mourir tranquille. Et puis un jeune médecin très technologique qui vous demande des tas d'examens, qui va absolument tout résoudre, etc. C'est-à-dire la technologie médicale montante, et qui n'arrête pas de faire des conneries, et que l'autre, en plus, par bienveillance, répare en passant derrière, en lui apprenant que on va résoudre le problème, mais peut-être pas à coup de scanner. Enfin, il n'y avait pas de scanner à l'époque, mais de l'équivalent. Marcus Welby, plutôt Robert Young, l'acteur qui joue Marcus Welby, est invité à un congrès de médecins pour qu'on le fasse parler du succès extraordinaire. Vous voyez, ça en dit long aussi sur la culture américaine. C'est-à-dire que quand quelqu'un incarne un personnage professionnel de manière aussi populaire dans le public, les professionnels se disent « il a quelque chose à nous apprendre ». Quoi qu'il en soit, Robert Young est invité et quelqu'un lui dit « bon, on aime beaucoup Marcus Welby, on est très content de ce qu'il fait pour la médecine de famille, etc. » Mais quand même, de temps en temps, on est un peu embêté parce que nos patients viennent nous dire « vous n'êtes pas aussi gentil que le docteur Marcus Welby ». Et ça nous embête un peu que nos patients nous disent « vous n'êtes pas aussi gentil que le docteur Marcus Welby ». Et Robert Young lui répond « c'est peut-être parce que vous ne l'êtes pas ».
On va revenir maintenant aux années 90, début 90 avec Urgence, série créée par Michael Crichton et Steven Spielberg à l'époque. La série devient très rapidement numéro 1 de la télévision américaine et c'est partout la même chose en France. Le service public renoue avec une programmation de séries américaines en prime time à une époque où c'était plus du tout l'habitude. Et donc le public découvre une série terriblement humaine qui multiplie avec brio les histoires intimistes et puis parfois aussi spectaculaires. En fait, avec Urgence, en France, le grand public découvre quasiment la série médicale, si on accepte Médecin de nuit. Aux États-Unis, en revanche, la série médicale est un genre majeur, peut-être le genre de série le plus universel qui soit, et Martin Winkler nous explique pourquoi.
La série médicale, c'est le genre le plus universel qui soit, parce que tout le monde peut être malade, tout le monde peut avoir affaire à un médecin. Tout le monde a eu affaire à un médecin le jour de sa naissance, sauf erreur de ma part, sauf si on a accouché au fin fond d'une brousse et que votre mère a accouché toute seule. Tout le monde a des problèmes de santé, tout le monde a des problèmes de vie. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que les Américains, depuis toujours, traitent les séries médicales comme des séries qui parlent de la vie des gens et non pas de leur maladie seulement. La maladie, ça les intéresse pas au fond. La maladie, c'est l'anecdote. La maladie, c'est ce qui amène le patient au médecin. Ce qui est intéressant, c'est la vie du patient. C'est qu'il a tel ou tel problème avec son boulot, sa femme, ses enfants, sa voiture qui marche pas, son canari qui va pas bien, etc. C'est ça qui est intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que ça passionne tout le monde, parce que la série médicale aussi est une série qui peut mêler tous les genres. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer tout le monde dans un hôpital. Vous pouvez rencontrer tout le monde, y compris des flics. Par exemple, il y a une série très très mal connue en France, mais qui est l'ancêtre de... Enfin, le prédécesseur d'Urgence, disons plutôt, qui s'appelle Saint Elsewhere. Et dans un des deux ou trois premiers épisodes de Saint Elsewhere, les médecins sont confrontés à un problème éthique majeur, puisque il y a un type qui a posé une bombe, qui a tué deux personnes, qui a fait cinq ou six blessés. Ce type-là est blessé et on le ramène pour qu'il le soigne. Et il y en a qui ne veulent pas le soigner, parce qu'il a tué des gens, etc. Problème éthique, éthique 101, comme on dit aux États-Unis. Hein. Voilà, vous avez un assassin, est-ce que vous le soignez ou pas? Moi, je n'ai jamais vu ça dans les séries françaises. Et Saint-Elsewhere n'était pas écrite par des médecins. Saint-Elsewhere a été écrite par des dramaturges, par des scénaristes. L'un des dramaturges qui écrivait Saint-Elsewhere, c'était Tom Fontana, qui est l'auteur de Oz et de Homicide. Bon, et qui lui s'est posé tout simplement les problèmes qui se seraient posés et qui s'est dit, bon, si j'étais médecin, moi, qu'est-ce que ça me poserait comme problème ou qu'est-ce que j'ai lu dans les journaux? Il se l'est posé comme ça. Donc, une série médicale, dans la mesure où elle parle tout le temps de la vie des gens, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. Vous pouvez en faire une série comique, vous pouvez en faire une série sur l'adolescence. Il y a une série médicale formidable qui s'appelle Dougie Hauser, qui est l'histoire d'un petit génie qui passe son bac à 14 ans, qui sort de Harvard à 16 et qui rentre à l'école de médecine à 17, qui est médecin à 17 ou à 18 ans. Le problème, c'est que ça reste un adolescent. Et ça lui pose des problèmes parce qu'il ne voit pas la vie comme les adultes. C'est un génie de la médecine. Mais c'est quand même un adolescent. C'est vachement intéressant. C'est une série... Bon, ça a été diffusé en France, mais ça a été diffusé comme une série pour ados. C'est pas une série pour ados, c'est une série pour adultes. Il y a des séries qui sont inconnues en France, mais par exemple... Il y avait, dans les années 50, il y avait deux grandes séries médicales. Il y avait Dr. Kildare. Dr. Kildare, c'était le médecin que toute mère voudrait avoir comme genre. Donc, il était profondément bon, profondément humain. En plus, il était séduisant comme tout. Enfin, bref. Vous mourriez heureuse dans ses bras. Il y avait Ben Kazé. Ben Kazé, c'était un chirurgien qui était un peu misanthrope. C'est-à-dire, c'était une sorte de House avant l'heure, qui était très, très dur, mais extrêmement humain. C'est-à-dire, il cachait son humanité sous un caractère de chien. Mais c'était quand même un peu rudimentaire. Cela étant, les histoires étaient des histoires passionnantes. Ça abordait les vrais sujets aussi. Hein. Ça abordait les sujets du viol, de l'avortement, de la maladie grave. Est-ce qu'il faut dire la vérité ou non? Aux États-Unis, on commençait déjà à le dire, alors qu'en France, on continue à ne pas le dire. Enfin, une de mes amies m'expliquait que son père est mort il y a quelques mois et qu'on ne lui a pas dit de quoi. Enfin, c'est insensé qu'on ne dise toujours pas en France aux gens ce qu'ils ont. Donc, non seulement, effectivement, les séries ont évolué, mais elles ont évolué de manière inévitable. C'est-à-dire que, d'abord, elles ont évolué parce que la médecine, le comportement médical et l'éthique médicale et les notions médicales ont évolué. Donc, forcément, les scénaristes se sont inspirés de ça. Et puis, elles ont évolué parce que le public a évolué, parce que la perception du médecin a évolué et que souvent, les séries anticipent un peu là-dessus. C'est-à-dire, à la fois, vont dans le sens de ce que les gens disent, mais elles anticipent dans la représentation. C'est-à-dire que c'est les séries qui servent de modèle aux médecins à venir. Bon, une série médicale comme Marcus Welby n'est plus pensable aujourd'hui parce que maintenant, les séries, en général, c'est plutôt des séries, ce qu'on appelle les ensembles shows, c'est-à-dire vous avez beaucoup d'acteurs avec un acteur principal ou deux acteurs principaux, mais vous en avez 7 ou 8, parce que vous avez des possibilités d'histoire beaucoup plus variées que quand vous en avez qu'un seul ou que deux, si vous voulez. Ça tourne un peu en rond. Elles ont évolué à cause de la technologie, elles ont évolué à cause du fait que, bon, je me souviens de la série qui a commencé en même temps qu'Urgence, Chicago Hope, qui est aussi une très très bonne série, c'est une série de David Kelly, qui mêlait dedans la médecine et la loi, enfin c'était et le roman policier, le roman noir, etc.
Every man in town. Qu'est-ce que vous faites?
C'est pour immobiliser votre tête.
C'est de la médecine moderne, ça?
Nous allons prendre une radio, monsieur Colido. Ça va être très rapide.
Et si vous continuez à parler, ça ne va pas du tout nous aider.
Je croyais que c'était une radio.
Il demande le divorce.
Je suis avec un patient, Jeff.
Vous veniez de vous séparer, nom de Dieu, et voilà qu'elle te balance son
arme. Ah,
tu devrais la faire virer sans perdre une seconde.
Arrête,
Camille est infirmière en chef du bloc. Toi, tu es chef du service neurochirurgie.
Je ne vous dérange pas trop.
Ah, non, pourquoi tu fais ça?
Chicago Hope, une autre série médicale, une série que l'on regarde pour le jeu des comédiens et pour les situations dans lesquelles David E. Kelley s'amuse à les mettre. Parmi les personnages de cette série, il y a par exemple dans les premiers mois la présence de Peter McNichol, mais il y a surtout dans Chicago Hope Mandy Patinkin, revue ensuite dans des séries comme Dead Like Me ou encore récemment Esprit Criminel, diffusée sur TF1, et qui est un comédien très apprécié outre-Atlantique, connu pour être aussi une grande voix de la chanson. Il pousse parfois la chansonnette au piano dans Chicago Hope. Il a un sacré caractère qui nous fait un petit peu penser à un futur médecin qui est très populaire aujourd'hui, Dr. House. Le fait qu'il chante beaucoup donne à cette série une grande originalité. On chante, on danse, et c'est en gros comme si l'univers de Broadway avait investi la série médicale. C'est vraiment du grand art.
Succion. Les poumons. Encore. Une autre. Raccordez l'aorte. J'ai le doigt dessus. Je la vois.
Il me faut une pince.
Voilà la pince.
Goutte à goutte augmentée.
Compresse.
Compresse. Merci.
Allez, bon Dieu, dis quelque chose, mon petit père. Tu n'as que 33 ans. Allez, réveille-toi. Tu veux la suture?
D'accord.
Je pompe juste au-dessus. Et l'amour revient. Camille, c'est comment les paroles? Quelqu'un les connaît? Je les oublie toujours.
Et l'amour reviendra dans nos mémoires.
Ah oui, c'est ça. Et l'amour reviendra dans
deuxième pince.
Je ne voulais plus jamais, y croire. Je ne voulais plus jamais y croire.
Ça y est, le pouls est reparti.
Bon, alors une dernière suture et on ferme. Écartez-moi tout ça, là. Merci.
Alors, les séries médicales dans les années 90 et puis après dans les années 2000, on en a un certain nombre. On ne va pas toutes les évoquer, mais je pense par exemple à Everwood, série assez sous-estimée, comptant les aventures d'un neurochirurgien qui s'exile dans une toute petite ville du Colorado pour oublier la mort de sa femme. Donc, il devient médecin généraliste. C'est assez simple et c'est très intéressant. Je pense aussi à Gideon Crossing, hein, une série de Paul Attanasio, série dans laquelle le docteur Gideon en fait gère les cas les plus désespérés les uns que les autres. Alors, Attanasio, il n'y a pas une vision très très optimiste, hein, de la vie, donc la série durera pas, mais elle vaut quand même pour son ton. Et Attanasio, on le retrouvera au générique de la plus marquante des séries médicales actuelles, hein, je veux parler de Dr. House, une série bien dans l'air du temps, protéiforme, on y rit, on y pleure, il y a du suspense, et puis il y a cette figure hors norme et insaisissable du Dr. House. Alors Martin Vinclair, il nous parle de cette série entre deux évocations, de Grey's Anatomy et de Scrubs.
Alors quiz, Eric, vous qui la connaissez bien, quelle est la série préférée du Dr. House?
C'est un soap dont j'ai un peu oublié le nom, c'est peut-être General Hospital.
Bravo.
Une série comme House, c'est une série qui... Enfin, moi, je regarde House, je jouis en permanence. Et la première fois que j'ai vu un épisode de House, j'ai joui en permanence parce que j'ai tout de suite compris ce que le créateur David Shore avait voulu faire. David Shore est retourné au fondement de la littérature populaire anglo-saxonne et a pris le personnage le plus connu au monde de la littérature anglo-saxonne et il en a refait ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire qu'il a pris le personnage de Sherlock Holmes, qui était inspiré par un chirurgien d'Édimbourg qui s'appelait Joseph Bell, qui était le patron de Conan Doyle, et il en a refait un médecin. Et donc, House, le docteur House, dans la version française, House, c'est Sherlock Holmes, médecin. Et évidemment, quand il fait ça, il croise deux genres, un genre hyper connu, qui est le genre de l'enquête policière, avec le genre médical, et il fait quelque chose qui avait été plus ou moins tenté par d'autres séries, mais de façon plus rudimentaire, il fait une enquête policière dans une série médicale chaque semaine. Sauf que cette enquête policière, elle porte sur une maladie. Alors le coupable, c'est un agent infectieux, mais il y a des victimes, les victimes c'est le patient, mais il y a des complices, les complices ça peut être l'entourage du patient, et puis il y a des équipes qui se déchirent en disant il faut chercher sinon, il ne faut pas chercher ça, comme dans une série policière. mais ça parle de la vie des gens. Et en plus, c'est pédagogique parce que ça vous apprend que telle ou telle maladie se peut donner tel symptôme, etc. Ça vous parle de l'éthique médicale. Donc, une série comme House est une série d'un universel consommé. C'est une série fantastique puisque quand vous voyez la caméra qui plonge dans les vaisseaux sanguins, c'est une série forte. Vous êtes dans le voyage fantastique de Richard Fleischer dans les années 60. Bon. Donc, c'est un truc extraordinaire que cette série ait autant de succès. Mais Grey's Anatomy est une série épatante aussi parce que elle vous parle d'un truc qui est inhérent à la nature même du fait de devenir médecin. Ça parle de comment on devient un adulte et un médecin en même temps. On commence à être étudiant, on est très jeune, on finit en étant un médecin à peu près chevronné, on a 10 ans de plus, et en même temps, on est obligé d'apprendre à être un adulte, c'est-à-dire à ses relations avec son entourage, ses relations avec les patients, ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses relations avec l'argent, ses relations... C'est de ça que ça parle. Et ça parle de ça, on parle sur le plan émotionnel, etc. Donc toutes ces séries, moi, je les trouve passionnantes parce qu'encore une fois, elles puisent dans la réalité. Elles sont inspirées avec des séries comme Scrubs, qui est une série comique sur le monde médical, est entièrement coécrite avec un médecin qui est l'ami d'enfance de Bill Lawrence, le créateur, qui lui raconte des trucs dont Lawrence dit « il y en a les trois quarts que je ne peux pas utiliser parce que la censure ne me laisserait pas passer ça ». Mais c'est passionnant, c'est passionnant.
Cela m'amuse et me contrarie à la fois de voir que vous pensez que je devrais être moins têtu que vous. Vous connaissez le serment d'Hippocrate, évidemment. Le truc qui commence par ne pas nuire aux malades et qui interdit les avortements, le libertinage et d'abord et avant tout d'inciser pour un problème de calcul. Oui, je l'ai lu une fois, c'est assez moyen.
Un traitement hyperbare peut provoquer une toxicité de l'oxygène, des lésions aux yeux et aux
poumons. Tous les traitements ont leur danger.
Et c'est pour ça qu'on ne traite que lorsqu'on est vraiment convaincu de la nécessité du traitement.
J'en suis convaincu. Vous non. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir y faire, hein?
Mon ami Alain Carazé m'appelle au début de House, il me dit « Qu'est-ce que tu penses de House ?» Je lui dis « Je pense que c'est une série géniale. » Il me dit « Ah bon ? Mais le personnage est tellement imbuvable, il est tellement à l'opposé des personnages que tu présentes toi. » Je dis « Bah oui, mais je m'en fous. Je m'en fous qu'il soit imbuvable, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il veut dire. » C'est-à-dire, il représente la médecine dans toute son ambivalence, c'est-à-dire une médecine hyper investigatrice et en même temps une médecine qui aimerait bien sauver les gens. Bon. Le personnage de House, le personnage médecin de House, c'est pas seulement le Dr. House, c'est toute l'équipe. C'est-à-dire que House, chacun des personnages représente une partie d'un médecin idéal. House, c'est le médecin complètement, la partie complètement intellectuelle, investigatrice, dénuée d'éthique, comment dirais-je, matérialiste du médecin. Cuddy, sa patronne, c'est la loi, c'est le respect de la loi. Tout médecin doit respecter la loi. Cameron, c'est la sensibilité. C'est-à-dire tout médecin doit avoir une part de sensibilité. Il y a un épisode dans lequel, d'ailleurs, elle en a trop, voilà. Elle est hypersensible. Alors, à l'heure actuelle, la série médicale qui me parle le plus, à la fois en tant que narrateur, en tant que spectateur, en tant que médecin, c'est House. Je suis très heureux de pouvoir m'identifier à cet ensemble de médecins avec toutes ces contradictions, parce que j'y reconnais toutes les pulsions, toutes les contradictions et tous les écartèlements qu'il peut y avoir chez un médecin. On a à la fois envie d'être super puissant, d'explorer les gens en long, en large et en travers, de les découper même s'ils ne sont pas d'accord, pour trouver ce qui les fait souffrir pour les empêcher de mourir. Et en même temps, on a envie de leur foutre la paix et de les défendre contre le monde entier en disant « foutez-leur la paix s'ils veulent mourir, laissez-les mourir tranquilles ».
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes, une émission de Benoît Lagane et Éric Véra. Prise de son, Aveline Carmois. Mixage, Pierre Monteil. Réalisation, Lionel Quentin. Retrouvez des compléments, biblios, liens, références de DVD sur franceculture.com à la page de notre émission et retrouvez également une critique de la série Urgence dans les pages de Générique, le magazine de la culture série. Demain, épisode 18, l'Amérique au banc des accusés, les séries judiciaires. nuit.
Dans l'urgence, le super-héros, c'est l'équipe. Et comme le super-héros proverbial, il est faillible. De temps en temps, il se trompe. De temps en temps, il y a quelqu'un qui meurt. Enfin, même souvent, il y a quelqu'un qui meurt. Il peut être blessé, il peut être... etc. Comme un super-héros, d'ailleurs. Ça reflète aussi l'image que l'Amérique a d'elle-même. C'est nous sommes très puissants, mais nous ne sommes pas sans faille et nous ne sommes pas invulnérables. Dream that you dare to, oh why
can't I? Il est 23h sur France Culture, retrouvez dans un instant Pierre Chevalier pour Sur les Docks, mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes-annonces.